Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Bonsoir.
Oh, waouh. Waouh.
Bonsoir et bienvenue dans Côté Club sur France Inter, l'émission musicale qui vous fait découvrir chaque jour le meilleur de la scène française. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée de musique et de rencontres avec des artistes talentueux. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir trois invités exceptionnels, Moudoïd, Kyrie Christmanson et Mickaël Turbo. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Hello.
Nous débutons cette soirée avec Moudoïd, un groupe de rock psychédélique qui a marqué la scène française ces dernières années. Leur musique est une fusion unique de son vintage et de modernité, portée par la voix envoûtante du chanteur Pablo Padovani. Nous aurons l'occasion de discuter avec lui, avec eux, de leur parcours, de leur processus créatif et de leur dernier EP, Prima Donna Volume 2. Nous poursuivrons cette soirée musicale avec Kyrie Christmanson, une chanteuse canadienne qui s'est installée en France et qui a su conquérir le public avec sa voix cristalline et sa musique poétique. Nous aurons l'honneur de recevoir Kyrie Christmanson pour parler de son dernier album Floralia, de sa vie d'artiste et de sa relation avec la France. Nous aurons le plaisir de découvrir son univers musical, sa vision de l'art et son parcours. Enfin, nous terminons cette soirée avec Mickaël Turbo, un jeune artiste français qui s'impose peu à peu sur la scène musicale avec sa musique singulière, inspirée par la soul et le funk. Alors là, parenthèse, manifestement, ChatGPT n'identifie absolument pas Mickaël Turbo et lui invente un CV. On lui a donc demandé de corriger. Voici sa réponse. Je suis désolé pour l'erreur de ma réponse précédente. Merci de me l'avoir signalé. Voici une version corrigée de la présentation de Mickaël Turbo. Enfin, nous terminons cette soirée avec Mickaël Turbo de chez Sony CSL, un laboratoire de recherche fondamentale en intelligence artificielle. Mickaël Turbo est un passionné de musique qui a su développer des projets innovants en utilisant les technologies de pointe. Voilà pour cette soirée musicale en compagnie de Moudoïd, Kyrie Christmanson et de Mickaël Turbo. Restez à l'écoute pour découvrir leur musique, leur histoire unique. Vous êtes sur France Inter et c'est Côté Club.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et oui, Kyrie, tout a été écrit par ChatGPT.
Mais c'est pas si mal, je trouve.
C'est pas si mal, on devrait faire ça absolument tous les soirs. Allez, on va ouvrir la séquence avec la chanson qui clôt l'album Brûler le feu de Juliette Armanet. On fait donc le début par la fin. Qu'importe, qu'importe, c'est le titre sur France Inter.
Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, des fêtes, son foie dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. T'avais aimé mon image, marge, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur. Tu m'as blessé, lassé, accroché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux.
vous étiez, passe tout le temps qu'il faudra tuer, dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi, passe les ratures, passe les futurs, sur le piano, les chevelures.
On va donc parler d'intelligence artificielle ce soir avec nos invités Moodoïd, Kyrie Christmanson et Michael Turbo qui est venu nous voir jeudi dernier parce qu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Michael Turbo est Technology Promotion Office Manager chez Sony CSL. Sony CSL, c'est un laboratoire de recherche fondamentale qui a été créé par l'inventeur du CD en 88 à Tokyo. Alors avant cela, Michael avait déjà un passé dans l'industrie musicale. Il a travaillé au développement d'artistes comme Phoenix, comme les Black Keys. Il a aussi bossé sur le développement en distribution. Et bien sûr, c'est ce passé qui a intéressé Sony CSL. Dans ce laboratoire que vous connaissez, je sais Kyrie, on en parlera tout à l'heure avec vous, il y a des docteurs, des chercheurs, des ingénieurs. Et ma première question à Michael a été de lui demander, est-ce qu'il y a une peur face à l'intelligence artificielle ?
En fait, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais en fait pas les artistes. Les artistes veulent de l'intelligence artificielle parce qu'ils comprennent que ça peut leur apporter des nouveaux jouets ou des nouveaux instruments pour jouer. En fait, les gens, généralement, ils viennent chez nous souvent par curiosité parce qu'ils entendent parler de l'intelligence artificielle. Donc ils se demandent ce que c'est, et qu'en fait les artistes sont relativement curieux, et avant de juger, ils veulent savoir, donc ils viennent chez nous, on leur présente ce qu'on fait, et que bah ça marche pas avec tous, ou toutes, mais en tout cas, certains sont là, ok je veux bosser avec vous, et je veux développer les choses, parce que ce n'est pas que utiliser nos outils, c'est que nous aider à les développer, c'est qu'on travaille avec des scientifiques et des ingénieurs qui ne sont pas des musiciens, et que nous notre rôle c'est d'essayer de travailler avec eux, pour que ce qu'on fasse soit utile pour eux ou elles, et qu'on a besoin d'eux en fait.
On va rentrer dans la pratique. Vous avez élaboré des outils pour la production musicale, la composition musicale, les partitions, la conception sonore interactive. Le mieux, c'est d'écouter ce que ça donne. Premier extrait, c'est Vital, un titre de Chaton, extrait de son dernier album, Vieux Lambeau.
Vaguement quelques Allemands glissent sur les abysses. Fais-moi tout tendrement. Promène sa souplesse, revenir à l'essentiel, donc revenir dans tes bras. La vie était tellement belle dans cette lueur. Stone d'amour, caractère, je t'aime encore comme un légionnaire. Stone d'amour, tout entier, tour à tour, missionnaire.
Quelle est la part prise par l'intelligence artificielle dans ce titre ? Parce que, évidemment, on n'a jamais entendu Chaton sur ce registre-là.
Alors, dans le monde de la science ou de la technologie sur l'intelligence artificielle, tous les ans, il y a des gens qui disent c'est le premier album fait avec l'intelligence artificielle. Là, pour le coup, et on n'a pas sorti les trompettes par rapport à ça, Chaton a fait un coup de maître absolument incroyable. C'est qu'en dehors de sa voix et son autotune, tout ce que vous entendez au niveau sonore, donc je parle pas forcément de mélodie, mais tout ce qui est sonore, tous les sons ont été générés par l'intelligence artificielle. Ça veut pas dire que l'assemblage de notes est fait par de l'IA, mais en tout cas, la texture sonore, le design sonore, tout ça a été travaillé par l'intelligence artificielle, et que c'est une intelligence artificielle, ce qu'on appelle de la synthèse neuronale, la différence de synthèse modulaire, FM, AM. Non, c'est une intelligence artificielle qui a décidé de générer ce son. Lui a décidé de garder ce qu'il aimait bien en termes de texture sonore, en termes de tonalité, et les a assemblés pour créer ce morceau-là.
Mais il a quand même rentré des données pour accéder à ce son-là.
Non, il a utilisé des outils sur lesquels nous, on a entraîné effectivement sur des sons. Souvent, les gens pensent que l'IA va faire des morceaux complets. Alors, ça risque d'arriver, on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, non, nous, on fait des instruments, en fait, c'est-à-dire qu'on fait des synthétiseurs.
Réaction en plateau avec nos invités, Kyrie et Christmanson. Je sais que vous connaissez Michael Turbo.
Oui.
Vous connaissez aussi ce laboratoire.
Je suis allée à ce laboratoire où, dans mon souvenir, les gens se promènent en blouse blanche avec des hamsters dans des cages et des plantes étranges qui poussent. Non, c'était pas tout à fait ça, mais c'était un laboratoire, effectivement, où j'étais invitée par l'artiste Skigé, l'alias de Benoît Carré, pour chanter un air qui sonnait pour moi comme une chanson folk des machines. Et c'est pour ça que j'ai accepté le projet, parce qu'on m'a toujours dit que ma musique sonnait comme une sorte de musique folk d'un monde inconnu. Et là, véritablement, c'était une sorte de musique folk d'un monde, un monde insolite, inconnu. Et ça a généré une mélodie totalement inhumaine, improbable et belle à sa façon.
Et bien on l'écoute, on voit ce que ça donne. Le titre, c'était « In the House of Poetry ». Chanson a été créée, on est d'accord, par l'intelligence artificielle, Kerry et Chris Manson.
Alors la mélodie, oui. L'arrangement harmonique, oui. J'ai écrit les paroles. Mais dans mon souvenir, c'était en donner à la machine plusieurs paramètres, genre des références musicales, des genres esthétiques, peut-être un tempo, peut-être même une tonalité, enfin la différentes choses comme ça. Il faisait un mélange et il sortait des propositions. Et un peu comme avec ChatGPT, on peut lui dire plus comme ça, moins comme ça, étoffer ça, j'aime pas ça. Donc c'est interactif quand même.
Et ça vous a intéressé ?
Non, je trouve ça flippant. Je suis médiéviste à la base, voilà. Oui. Je viens de la musique folk au Canada, j'ai fait des études de musique médiévale en France, je suis très attachée à l'humain. Même, je l'ai fait avec le cœur divisé, ça me fait peur et ça me fascine. Souvent ces deux choses vont ensemble. Mais je suis très heureuse d'avoir fait l'expérience parce que je pense que ça va être quelque chose avec lequel on va devoir composer en tant que musicien dans le futur, et j'ai eu une expérience personnelle.
Moudoïd, ça vous intéresse aussi, l'intelligence artificielle dans le cadre de la musique ?
Oui, pour l'instant, c'est vraiment une zone inconnue là, pour moi. Je n'ai jamais eu recours à ça. Et j'ai beaucoup de mal à me projeter avec ces technologies-là, mais en effet, ça a l'air très intéressant, et de pouvoir l'exploiter comme ça, comme un outil de laboratoire, c'est intéressant.
Mais vous allez voir, il y a plusieurs outils. Sony CSL a travaillé sur plusieurs outils mis à la disposition des artistes. Description d'abord, BassNet et DrumNet. Ça fonctionne comment ? Réponse, Michael Turbo.
En termes de conception, c'est à la fois extrêmement compliqué d'un point de vue scientifique, mais assez simple dans l'explication. C'est qu'on a fait écouter à une IA qui au départ était comme un enfant, qui ne savait rien faire. Et on lui a dit, voilà tel morceau, voilà la basse associée. Et on a fait ça sur des centaines, voire des milliers de morceaux. Et on lui a dit, tu te débrouilles, t'apprends à jouer de la basse. Ou t'apprends à jouer de la batterie. À ce moment-là, l'IA commence à essayer de comprendre des patterns, des logiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'on fait pas ça? Donc en fait, elle commence à se créer ses propres règles d'elle-même, de ce que c'est que le rythme, de ce que c'est qu'une mélodie, de ce que c'est que le jouer de la basse. Et qu'après, une fois qu'elle a compris ça, on lui dit, voilà un morceau où il n'y a pas de basse, où il n'y a pas de batterie. Est-ce que tu es capable de faire des propositions de placement du kick, de la snare, du hi-hat? Ou est-ce que tu es capable de jouer une ligne de basse? Et qu'en fait, l'IA, d'un point de vue académique, d'un point de vue conservatoire, elle sera toujours juste, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle sera jolie. Et que c'est là où la place de l'artiste est hyper importante dans ce qu'on fait, c'est que...
La notion de moche ou de beau.
C'est ça, l'IA, elle n'a pas d'oreille. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle comprend juste que d'un point de vue, on va dire académique, ce qu'elle fait est pertinent. C'est à l'artiste, après, de travailler avec elle et de lui dire « Non, ce que tu viens de faire, c'est absolument nul. Ce que tu viens de faire, c'est bien. » Ou alors « Tiens, tes deux notes que tu viens de me proposer, elles sont absolument géniales. Je vais garder que ça. Et par contre, tout le reste de la basse, je vais la construire moi-même. » C'est ça qui est génial avec l'IA, en fait. C'est qu'elle a une expérience et une expertise qui fait qu'elle va pas réfléchir à la solution du même problème musical que vous. Et donc, en fait, les gens pensent qu'on va dans la standardisation de la musique avec l'IA. Mais qu'en fait, non. Les artistes aujourd'hui sont souvent seuls devant leur ordinateur et qu'on leur permet de faire comme à l'époque où c'était une interaction entre des expertises fortes et différentes et où les gens s'engueulaient. Mais en fait, c'est pareil avec l'IA. On s'engueule avec l'IA.
Il n'y a pas que le son, il y a un autre outil, c'est Poésis. Ça consiste en quoi ?
Alors Poésis, c'était extrêmement impressionnant il y a 6 mois, 7 mois. Ça l'est toujours, en tout cas d'un point de vue artistique et en tout cas de composition de paroles. Mais ChatGPT est arrivé depuis, ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. C'est un outil où en fait on essaye d'aider les artistes à composer des paroles, parce que en dehors de la partie, on va dire, poétique de composer des paroles, il y a aussi des considérations qui sont assez techniques, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire après tel mot ? Et qu'en fait on a réussi à faire apprendre à une IA à parler anglais et français, et où en fait vous allez lui expliquer, voilà, j'ai ces deux premières phrases, je sais pas comment commencer la troisième, et en fait on va faire des propositions qui sont contextuellement pertinentes, mais ça veut pas dire que c'est joli, et qu'en fait on est juste là pour créer l'accident créatif qui fait que tiens, il y a ce mot qui arrive, ok, il m'a débloqué.
Enfin, Notono, un générateur de son via spectrogramme. J'avoue que quand je dis ça, je n'ai rien compris.
Alors en fait, le spectrogramme, c'est une représentation en image d'un son.
Ouais.
Donc sur l'axe des abscisses, vous avez le temps. Sur les ordonnées, vous avez l'énergie au niveau fréquentiel.
Ouais.
Et que c'est une façon de pouvoir travailler en IA sur la musique. C'est-à-dire qu'on, pour que l'IA comprenne, on est obligé de transformer un son en une image. Et en fait, Notono est un instrument assez incroyable, ou la promesse en tout cas est incroyable. C'est une réflexion d'un scientifique chez nous qui s'appelle Théis Bazin, qui s'est dit, c'est très compliqué d'avoir un synthétiseur et de manipuler le son. Il y a plein de potentiomètres, il y a des filtres, c'est hyper compliqué. Si j'arrivais à trouver un moyen pour que visuellement on puisse peindre des sons, au lieu, lui, il parlait de paint. Et en fait, c'était une façon pour lui de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus intéressant et plus drôle pour faire du design sonore de son de synthétiseur. Et donc, en fait, vous allez mettre sur le bas du spectre fréquentiel un son de basse, et puis sur la première seconde de l'attaque de guitare, et à la fin, vous allez avoir un son un peu bizarre que vous n'avez jamais entendu, où en fait, vous peignez, et l'IA va reconstruire tout ça de manière homogène. Et c'était juste une réflexion de, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur le son de manière un peu plus amusante ?
Je vous ai vu réagir, Kyrie Christmanson, notamment sur le premier outil.
Oui, en fait, j'ai plusieurs réactions qui me viennent à la tête. Enfin, voilà, notamment autour de l'écriture de la poésie. En fait, ça me scandalise quelque part parce que oui, la poésie est dure. La poésie, il faut mourir plusieurs fois pour sortir une ligne de bien. Et ce raccourci, cette façon de lisser et de rendre plus facile un processus qui, en fait, je pense que c'est la tension de la lutte qui fait que quelque chose de bien en sort. Donc oui, voilà, en tant que parolière, en tant que quelqu'un qui essaie d'écrire de la poésie, je ne comprends pas d'où va venir la poésie dans ce processus. Aussi, j'ai une question qui est peut-être tout bête, mais quand est-ce qu'il va parler des droits d'auteur ?
Alors, c'est tout le problème, on y reviendra justement dans la troisième partie. Oui. C'est les problèmes qui se posent aujourd'hui. Moudoïd, par rapport à tous les outils qui sont mis à disposition, est-ce qu'il y en a un qui vous a plus particulièrement parlé ou il vous a complètement perdu, Michael Turbo ?
Eh bien non, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que, enfin, la raison principale pour laquelle je fais de la musique, c'est quand même de m'amuser, de chercher, de...
Ah bah là, on peut s'amuser et chercher aussi, hein.
Oui, mais de le faire par soi-même, c'est-à-dire, on a quand même la chance d'avoir aussi des instruments et des outils qui sont analogiques, qui sont palpables, enfin je veux dire, qui sont... c'est vraiment des circuits électroniques qu'on peut toucher et tout ça, et construire avec. J'utilise parfois des intelligences artificielles, par exemple, parce que je fais aussi de la réalisation. Et il existe des banques comme Flim où on peut taper par exemple sur internet, je veux des images d'un mec dans le désert, et t'as genre tous les films qui ont été faits avec des mecs dans le désert. Et je comprends l'utilité de ces outils, mais c'est vrai que pour l'instant je les entreprends comme pour maqueter des choses, quoi, vraiment pour faire des prototypes, mais je me verrais pas utiliser ça sur du final, quoi. J'aurais quand même besoin de tout refaire ensuite pour de vrai.
Enfin, j'ai demandé à Michael Turbo quels sont les prochains outils sur lesquels le laboratoire travaille et quelles sont aussi les demandes des artistes.
Tout le monde aimerait savoir quel est le prochain outil qui va pouvoir permettre de donner un grain à une voix, de retravailler une voix. Ça, c'est très très fort et les demandes sont très fortes de la part des artistes. Et après, comme énormément, là pour le coup, de laboratoires de recherche, c'est un sujet qui est énorme, c'est l'équivalent de ChatGPT pour la musique. C'est comment est-ce qu'on peut converser avec une IA pour pouvoir, plutôt que d'avoir un logiciel avec plein de pistes dans tous les sens et plein de plugins dans tous les sens, c'est a priori, c'est la direction dans laquelle ça va. C'est demain, en fait, est-ce qu'on va pas juste converser avec une machine et lui dire, mets-moi la basse plus forte, mets-moi la basse moins forte, est-ce que tu peux me faire quelque chose d'un peu plus groovy, est-ce que tu peux me faire nanana, et de finalement être dans un question-réponse en permanence avec la machine et qu'on soit plus à taper ou à étudier la souris et que la machine comprenne quand on lui dit quelque chose. Finalement, pour recréer ce qui se passait il y a pas mal d'années dans un studio d'enregistrement, c'était tout le monde se parlait, chacun avait son expertise et que c'est en parlant que les choses avançaient.
Je pense que c'est plausible.
Ah oui, non, mais c'est sûr, ça va arriver. On parle de 2 ans ou 3 ans.
Ah oui, quand même.
En tout cas, pas forcément dans le commerce, mais en tout cas dans la réalisation. Quand on voit ce qu'a fait Google ce qui est à la fois extrêmement impressionnant et un peu flippant, où effectivement où on demande un morceau à une IA de composer un morceau avec une voix masculine et un solo de guitare. Ça commence à fonctionner, alors pas du tout suffisamment pour que ce soit écoutable dans le vrai monde, mais ça va arriver. Alors nous, on n'est pas sur de la génération de morceaux complets parce que ça nous intéresse pas, parce que on est là pour les artistes. Nous, en fait, on s'intéresse surtout à pouvoir créer des boucles et les aider sur des boucles, sur des petites parties de morceaux ou des petites briques technologiques sur lesquelles auxquelles ils vont faire appel sur plein de sujets différents. Mais encore une fois, nous, on est juste là pour aider les artistes et essayer de leur donner des nouveaux joints intéressants. Et on verra d'ailleurs, est-ce que l'IA, c'est une grosse question qu'on se pose, est-ce que l'IA va créer un nouveau genre? C'est assez rigolo, on n'en sait rien, mais j'ai hâte de voir.
Encore une question par rapport à Chaton. Quand on l'avait reçu, il nous avait parlé du fait qu'il pourrait peut-être imaginer faire chanter sa copine. Il prendrait un échantillon de sa voix qui parle, mais lui, quand il chanterait, ça serait la voix de sa copine. Ça vous paraît envisageable?
Alors, c'est déjà tout à fait possible sur la voix parlée. D'ailleurs, le laboratoire IRCAM parisien est très fort là-dessus. Sur la voix chantée, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, on parle d'un an ou deux ans avant d'y arriver. Il y a notamment David Guetta. C'est génial que ce soit David Guetta qui l'ait fait. Je ne sais pas si vous avez vu.
Non.
Il a mis un morceau en ligne où il est en concert. Il est en DJ set devant des milliers de personnes. Et tout d'un coup, il fait chanter Eminem. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. C'est absolument incroyable. Alors, ça pose énormément de questions éthiques, légales et de propriété intellectuelle.
C'est énorme, ouais.
Ouais, mais il y a un moment, les artistes respecteront jamais les règles. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui s'appelle la créativité. Et qu'il va falloir qu'après, tous les juridiques se courent après pour essayer de comprendre comment gérer ça. Mais c'est tellement intéressant de vivre ce moment-là qui est révolutionnaire et qui va poser énormément de questions. Et que l'idée, c'est de trouver une solution et qu'à la fin, tout ça fonctionne et soit autorisé. Ou pas, mais je trouve ça toujours compliqué d'interdire aux gens de faire les choses. Généralement, c'est la meilleure raison pour eux de le faire, en fait.
Une dernière intervention, Kyrie Christmanson.
C'est juste qu'il passe un peu à côté de la question. Au final, avec les plateformes de streaming, etc., les musiciens, les créateurs de musique touchent de moins en moins d'argent. Donc, c'est une façon en plus pour les gens de ne pas toucher de l'argent. Donc, c'est la question de l'origine de l'œuvre. Est-ce que c'est la machine qui l'a composée? Au final, est-ce que c'est l'artiste qui l'a composée? C'est une question qui est assez simple, mais pour l'instant, ce n'est pas. Il n'y a pas une réponse simple. Je pense.
On abandonne l'intelligence artificielle. Kyrie, je vous propose de partir en live avec Moodoïd. Ils sont installés derrière nous au micro. Premier titre du nouvel EP, Memories. On en parle après avec le fondateur de Moodoïd, Pablo Padovani. C'est à vous les garçons.
Que
Moudoïd en live pour Côté Club. Merci Pablo Padovani, vous venez nous rejoindre. Prise de son ce soir, Adèle Caglar, Benjamin Troncin. Je signale qu'un deuxième titre sera à l'écoute sur le site de France Inter, le titre Only One Man. Vous pourriez peut-être nous présenter vos complices. Ils sont trois ce soir avec vous pour ce live. Il y avait...
Alors on a Pierre-Yves Grissy à la basse, Paul Prié au piano et Vincent Tantillé à la batterie.
Parfait. Donc c'est un nouvel EP pour Moudoïd, Prima Donna volume 2. Le volume 1, on vous avait reçu pour cela, c'était en 2021. Vous pouvez peut-être rappeler l'idée au départ de ce dispositif féminin pour Kyrie Christmanson.
C'est parti, l'idée est partie du fait que en fait, dans Moudoïd, j'ai toujours partagé mes parties de chant avec des chanteuses. Et j'ai souvent été accompagné par des femmes musiciennes aussi. Et il était temps un peu pour moi de...
Radicaliser le propos
et d'inviter à la collaboration et de créer donc avec ces chanteuses qui étaient un peu omniprésentes dans ma musique.
Et figure imposée, chaque chanson est associée à une artiste différente, extrait de Lucifer.
C'est à moi que tu dois plaire. C'est pas si facile, va falloir trouver quoi faire. Je te veux comme un tube planétaire. Dans le rythme de travers, c'est te laisse à terre. C'est à moi que tu dois plaire. T'es la seule qui veut me sortir de cette galère. Allez, je sais que tu peux le faire. T'as signé ton pacte avec Lucifer.
Qui entend-on, à part vous, quelle est la chanteuse féminine que l'on entend en japonais sur ce titre?
Et j'ai eu la chance de collaborer pour la troisième fois avec une artiste japonaise, là c'est Zombie Shang, qui est une jeune artiste de musique électronique et qui s'est prêtée au jeu enfin moi je me suis inspiré un peu du disco français des années 80 sur ce titre et du coup je l'imaginais un peu dans un environnement tokyoïte et elle a accepté de se prêter au jeu.
Quel est le lien que vous entretenez avec le Japon? Parce que c'est pas la première fois que vous allez de ce côté-là.
Et oui, c'est un pays que j'ai découvert, je pense, en 2013 en allant jouer là-bas. Et pour qui j'ai eu un coup de cœur énorme en le découvrant comme ça par hasard en tournée.
Vous y jouez, vous avez rencontré une scène musicale particulière là-bas?
Et du coup, ouais, voilà, en y étant, je me suis intéressé. J'ai en effet découvert une scène et j'ai eu ma première collaboration avec Comwide, la chanteuse de Wednesday Campanella, qui est un groupe important au Japon. Et on a fait une chanson qui s'appelle Langage et qui parle justement de cet état d'esprit un peu lost in translation quand tu es au Japon, car ils parlent pas très bien anglais. Et du coup, ça donne toujours des scènes improbables de vie et de... des expériences assez chouettes.
Le Japon vous intéresse aussi, hein,
Kyrie Christmanson? J'écoute avec grand intérêt parce que il est vrai, sur Floralia, j'ai invité Mieko Miyazaki. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une magnifique joueuse de koto. C'est une sorte de harpe japonaise qui se joue à l'horizontale comme ça. C'était pareil, j'étais au Japon pour un concert et j'avais mis. Il y avait une alarme radio à l'ancienne et je l'avais allumée pour me réveiller pour les balances, etc. Et en fait, une musique a apparu et c'était la plus belle et la plus triste musique que j'ai jamais entendue et j'ai jamais su retrouver quelle chanson c'était, mais j'ai compris après que c'était le koto et j'ai trouvé donc cette joueuse de koto qui habite en France et donc il y a vraiment une couleur japonaise, japonisante sur l'album Floralia et voilà aussi tout le concept esthétique du Monono Aware qui est la méditation ou la célébration de tout ce qui est éphémère, donc voilà.
Il n'y a pas simplement le Japon, parce que autre figure imposée sur cet album et sur ces deux albums d'ailleurs, c'est que chaque fois vous travaillez avec des artistes de pays différents. On l'entend sur ce titre, Mélodie, avec l'espagnol Dora.
Peu importe ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, lo que más me importa, pas de couleur, me vient pas esta música. No quiero nadie, como te quiero a ti, como te quiero a ti, como te quiero. Pregúntame cómo yo estoy, si yo soy su melodía.
Donc une espagnole, une japonaise, on y parle anglais aussi. Est-ce que vous avez réussi autant que vous vouliez pour aller dans différents pays, contacter différents artistes?
Et ça a été un très long processus parce que en tout il y a une quinzaine de chansons issus de ce projet. Et du coup, ça a été un long processus d'aller trouver les duos, d'aller contacter les personnes, de réussir à rentrer en contact avec elles. Et donc, évidemment, j'ai eu aussi des non-réponses ou des refus.
Des refus aussi.
Oui, c'est arrivé que parfois des artistes féminines n'aient pas le temps ou pas envie de s'associer au groupe d'un petit français. Voilà.
Donc, la collaboration qui vous aura surpris ou le plus amusé dans cet échange d'artistes de toute nationalité, ça serait laquelle pour vous, Moudoïd?
Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois que je suis venu, mais mon duo avec la chanteuse de Saada Bonheur, Stéphanie Lang, qui est donc un groupe des années 80. Et donc j'ai rencontré cette femme au travers de ce projet et c'est une femme qui n'a plus chanté depuis presque 25 ans. Et le fait d'aller la retrouver sur internet, de rentrer en contact avec elle, d'aller à Bremen en Allemagne pour la voir et l'enregistrer dans son salon, ça a été une vraie aventure géniale de Stallone.
Donc un casting d'artistes femmes, mais au niveau des musiciens, des techniciens, là aussi ça sera des musiciennes et des techniciennes comme à vos débuts? Enfin pas du tout, si j'ai bien compris ce qui s'est passé tout à l'heure pour le live.
Et alors non, le live c'est une formation éphémère qu'on a montée juste pour aujourd'hui.
Donc avec des garçons?
Ouais, c'est ça. Et pour la suite de Moodoïd, je ne sais pas encore du tout quelle forme sera.
Quel était l'enjeu pour vous au départ d'inverser les rôles, c'est-à-dire d'être le seul garçon dans un groupe de filles, alors que généralement c'est toujours la fille dans un groupe de garçons?
Mais c'est complètement venu de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été, j'ai fait partie des garçons qui accompagnaient une chanteuse ou donc une artiste. C'est comme ça que j'ai commencé dans la musique, avec Mélodies Echo Chamber. Et quand j'ai commencé à faire mon projet, j'ai remarqué que toutes mes chansons étaient vraiment liées à mon intimité, je me suis dit j'aimerais bien vivre la même chose que Mélodie, mais cette fois j'aimerais que ce soit moi le seul le garçon entouré de filles, parce que je crois aussi que ça va me mettre dans un autre état d'esprit.
Et ça vous a mis dans un autre état d'esprit ?
Ouais, je pense qu'on est vraiment très différents enfin, en tout cas, moi, je constate que je suis très différent quand je suis avec un groupe de garçons ou quand je suis avec un groupe de femmes. Et en tournée pendant 3 ans, on a voyagé comme ça, donc avec des techniciennes, en effet, et des musiciennes. Et c'était complètement atypique, comme même le se faire accueillir en festival, se faire accueillir dans les salles de concert et tout ça. Tout ça a donné une expérience de vie inédite pour moi.
Ça, vous comprenez, Kyrie Christmanson. Parce que vous tournez aussi avec un dispositif féminin.
Bah, pour la première fois, figurez-vous, parce que c'est vrai que notre génération de musiciens, j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre donc cette prise de conscience post-hashtag MeToo. Et j'ai constaté à l'échelle personnelle, dans mon histoire personnelle, que j'avais jamais joué avec des femmes. J'étais toujours la seule femme au plateau. Et d'autant plus parce qu'avec Floralia, j'explorais l'art de la berceuse, l'art de ces chants transmis surtout par des femmes dans une famille. Donc il était important pour moi de rassembler des femmes pour faire vibrer les voix féminines ensemble.
Avant Moodoïd, vous aviez une carrière dans l'image, les clips de Juliette Armanet par exemple, ça commençait comme ça, pour vous, l'image, les clips. Moodoïd, ça commence en 2010, la musique c'était un plan B, alors même que vous venez d'une famille de musiciens, et pas n'importe lesquels, le père, on en avait parlé la dernière fois, Jean-Marc Padovani, grand musicien de jazz, saxophoniste, vous vouliez vous démarquer par l'image au départ ?
J'ai jamais cherché à me démarquer de ma famille, mais c'est juste que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, l'image, et c'est ce que je continue à faire en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté, et du coup ça fait maintenant 10 ans que je fais les deux carrières en simultané, et je continue à faire énormément de clips, même à l'heure actuelle, d'ailleurs le prochain sortira la semaine prochaine pour Moodoïd, et pour Paul Prier, mon pianiste, je viens de réaliser un nouveau clip. Et voilà, donc c'est vraiment une carrière que je mène toujours ensemble.
Mais la musique est arrivée par la suite quand même, pas au départ.
Et la musique a toujours été en parallèle aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de la musique depuis le lycée. Et en fait, la carrière a commencé, on va dire, dans la musique lorsque j'ai commencé à faire les clips de mon groupe. Et qu'un des clips a fait un buzz, à l'époque on appelait ça les buzz, il y avait des buzz sur les clips sur YouTube. Et du coup, c'est comme ça que tout à coup je me suis retrouvé propulsé à pouvoir vivre de la musique et de mon projet musical, mais c'était à la sortie de mes études de cinéma.
On va parler dans quelques instants médiéval, folk médiéval avec vous, Kyrie Christmanson, et tout de suite Bertrand Belin. Bertrand Belin était en live sur FIP il y a quelques jours, le concert est disponible d'ailleurs sur le site de Radio France. Surface ce soir, c'est dans Côté Club.
Avec mon Varda, j'ai glissé dans les chambres j'ai surprise en amour. Plusieurs fois les branches ont cassé. J'ai eu du repos, des nuits blanches en amour, des jours entiers, parfois des années, perdu de vue. J'ai briqué des surfaces jusqu'à me voir dedans, curieux face à face. Pas évident, pas évident. Quasiment moi-même, de nouveau. Quelque part derrière la virgule, à revoir mes calculs. Descendu du train, train couchette, revu. Claquette, revue à la baisse, Son Altesse. Des jours entiers, parfois des années, perdu de vue. J'ai briqué des surfaces jusqu'à me voir dedans. Curieux face à face, pas évident, pas évident. Avec mon barda, j'ai glissé dans les chambres. J'ai eu du repos, des surprises, en amour. Plusieurs fois les branches ont cassé. J'ai eu du repos, des nuits blanches en amour, des jours entiers et parfois des années, loin de tous, à la ramasse. J'ai briqué des surfaces. Jusqu'à me voir dedans.
Côté club. On pourrait côté chez moi ou dans un club.
Laurent Goumard.
Moudoïd et Kyrie Christmanson sont les invités côté club ce soir. Kyrie Christmanson, auteur, compositrice, interprète, avec un nouvel et quatrième album, Floralia, 9 titres dans la veine folk qu'on vous connaît, on va y venir. Mais d'abord, retour aux fondamentaux. 2010, premier album, Origin of Stars, avec ce son.
Et à Paris, les lumières brillent, écoutez ce levant, le oiseau si petit. Chantez ombres et des amours faillis sur les rues à Paris.
Un hommage à Montmartre pour ce premier son. Mais justement, dans quelle culture musicale avez-vous grandi? Au Canada, en fait, Kyrie Christmanson.
Alors, vous passez ce titre, Laurent. Je crois que j'ai 14 ans au moment de cet enregistrement. Donc, je pense que je me suis améliorée en français depuis.
On le vérifie d'ailleurs sur cet album.
Voilà, maintenant,
ouais, on va l'écouter tout à l'heure, justement, un titre en français.
Mais alors, j'ai évolué, je viens du milieu de la musique folk au Canada. Et en fait, c'était une des premières compositions que j'ai écrites. et c'était en regardant des vieilles photos de Montmartre, et ça a créé comme un espace émotionnel en moi où peut-être vivre pour son art était possible. Donc c'était bien avant que je sois venue en France. Donc voilà, bon, ce pays exerçait déjà une puissance de fascination, et aussi par sa musique médiévale, parce que j'avais un intérêt dès mes plus jeunes âges, je ne sais pas comment, pour les premières compositrices de l'histoire, les femmes troubadours. Donc voilà, des femmes au 12e, 13e siècle qui composaient des chansons d'amour profane à une époque marquée d'une grande ferveur religieuse. Et je pense que cette tension entre le sacré et le profane, c'était quelque chose qui me parlait, qui était déjà en train de me tirailler et me pousser à composer. Donc voilà, la France a toqué sur la porte de mon destin pour plusieurs raisons.
D'ailleurs, ce répertoire des premières compositrices médiévales, vous en avez fait le cadre du deuxième album, Modern Ruins, en 2015. À cette époque, justement, est-ce que vous aviez des difficultés ou une certaine pudeur à parler de vous pour aller chercher si loin dans le répertoire, Kyrie,
Christensen? La phrase de Rimbaud, « Je est un autre », résonne énormément avec moi. Les chansons que je préfère quand je compose sont celles dont j'ai l'impression qu'elles sont écrites par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'être hantée par des voix qui m'appartiennent, mais qui ne m'appartiennent pas forcément. Donc, ce n'est pas forcément une pudeur, mais chaque album, pour moi, représente une étape dans une sorte de projet d'âme, un chemin pour aller vers une quête de mystère et d'émerveillement. Et souvent, je me rapproche de différentes thématiques dans Les Femmes Troubadours, dans la physique quantique aussi, sur Lady Lightly, pour marquer une autre étape sur ce chemin.
Alors aujourd'hui, c'est un nouvel album, le quatrième, Floralia, en hommage à Flora, la déesse romaine de la nature et de la Renaissance. Donc vous poursuivez toujours cette recherche sur le féminin en lien avec la création. Est-ce que vous avez dans votre famille des figures féminines, mère, grand-mère, qui pourraient fonctionner comme des repères dans votre parcours musical?
Oui, alors c'est une question qui est intéressante, parce que dans ma famille, j'ai hérité d'une tradition d'écriture de la chanson de mon père, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une tradition de la berceuse dans ma famille, mais que dans mon propre esprit, je ne l'accordais pas forcément de la valeur. Je m'en suis rendu compte récemment, enfin voilà, avec aussi les nouvelles idées qui arrivent, les nouveaux mouvements dans le féminisme qui accordent une valeur à ces arts dits soft, les soft arts. Et donc, évidemment, c'est dans la berceuse aussi. J'ai une énorme tradition de tricot et d'art, de l'arrangement floral, entre autres. Ces arts qui ne sont pas historiquement considérés comme importants. J'ai beaucoup de créativité féminine dans ma famille de cet ordre-là, qui m'a beaucoup inspirée dans la composition de ces chansons.
Et on l'entend notamment avec ce morceau, Garden Song, qu'on va écouter tout de suite. Peut-être un mot pour le présenter?
Alors ça, c'est une chanson qui est une mise en musique d'un poème d'un poète du 19e siècle anglais, qui n'était pas publié dans sa vie. Il s'appelle Charles Isaac Elton. Et en fait, je suis très très fan de Virginia Woolf. Pour ceux et celles qui me connaissent, c'est vraiment, c'est presque une obsession. J'ai des premières éditions, sur un budget d'artiste, c'est pas rien. Et donc ça représente une source d'inspiration pour moi importante. Et en fait, ce poème apparaît à la fin de son livre Au phare, et c'est un de ses personnages, le poète Augustus Carmichael, qui se lève et qui récite ce poème à propos du parcours d'une fleur. Donc, et pour Virginia Woolf et Leonard Woolf, ça représentait leur croyance à propos de la vie et de la mort, et puis de la renaissance. Ils croyaient dans la réincarnation. Donc j'adore ce poème, et je voulais le mettre en musique. Come out and climb the garden path. Thank you.
Garden Song, titre magnifique de ce quatrième album Floralia, signé Kyrie Christmanson. On y entend le koto, on en parlait tout à l'heure, le koto japonais. On y entend aussi la guitare particulière dont vous jouez. Je sais que c'est un instrument de la fin du 19e siècle, avec des cordes en acier, c'est ça?
Oui, c'est une guitare très particulière qui vient de la Suède. Donc voilà, fin 19e siècle, qui émane d'un mouvement religieux qui s'appelle The Free Church Movement. Et en fait, la philosophie de ce mouvement, c'était qu'avec une guitare et avec l'harmonie vocale, on pouvait ouvrir un espace de rituel n'importe où, n'importe quand. Il faut imaginer qu'on est en pleine accélération de la révolution industrielle et en fait, il y avait des gens déjà à cette époque-là qui disaient stop, on slow down et puis voilà, on ouvre cet espace de rituel. Et au final, c'est ça, c'est ce que je voulais faire avec Floralia en composant sur cette guitare, c'est de créer des petites interstices et avec ces berceuses cosmiques, ouvrir un moment de ralentissement et de introspection. Donc voilà, fortement inspiré par cette guitare qui est très belle et magnifique à jouer.
Alors elle est passée où la trompette? Parce qu'au départ, Kyrie Christmanson, c'est la trompette pour vous.
Et tout à fait.
Vous avez même joué dans le groupe de Mélissa Lavo, de la trompette, dans des big bands, dans des trucs symphoniques. Vous avez bien changé, hein?
Alors, est-ce que j'ai bien changé? En fait, on m'a dit quand j'avais 7-8 ans que je devais jouer de la flûte, parce que je suis petite et plutôt peut-être un peu en retrait, et j'ai dit non, en fait non, je veux faire du bruit. Donc je continue à faire du bruit, mais autrement. Mais la trompette, c'est un peu grâce à la trompette que je sois venue en France, parce que oui, je jouais dans le groupe de Mélissa Lavo, faisait les premières parties de Feist. Je dois dire que, en fait, à la même époque, il y avait Émilie Loiseau qui m'a écrit sur MySpace. Donc, un beau jour, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé sur MySpace un message d'Émilie Loiseau qui me disait « Ah, je suis tombée sur tes chansons, est-ce que ça te dirait de venir en France pour faire mes premières parties ?» Alors voilà, avec ma trompette, avec mes guitares, j'étais venue pour faire les premières parties d'Émilie et pour jouer avec Mélissa. Donc la trompette, voilà, dans un appartement parisien, voilà, j'ai eu une pensée pour mes voisins. Et...
Vous êtes bien aimable pour eux. Je vais rebondir sur Émilie Loiseau, c'est étrange, parce que quand on chante la nature, comme vous le faites avec cet album, on se doit, j'imagine, de faire correspondre ses concerts, sa tournée, avec des convictions éco-responsables et de décroissance. Et vous parlez d'Émilie Loiseau. Émilie Loiseau, elle a des convictions très précises, hein, écologiques, et notamment avec une tournée, pas d'avion, même pas de train, je crois qu'elle circule en charrette, enfin quelque chose dans ce goût-là. Et vous, comment vous concevez votre tournée et vos concerts? Je sais que vous choisissez toujours des lieux très particuliers.
Tout à fait. Alors, pour moi, Floralia, c'était vraiment un laboratoire pour essayer d'adopter certaines idées à mon échelle, à titre personnel. Émilie, c'est une grande inspiration. Elle a déjà fait des tournées en calèche. Je ne sais pas
c'est
si
ça,
elle se déplace comme ça exclusivement, parce que je suis en train d'organiser et vraiment, le monde n'est plus fait pour la calèche. Voilà. J'ai un scoop pour vous.
Vous êtes en train d'organiser des tournées en calèche?
Oui, le premier, c'est le mois prochain. Donc voilà, il y avait une idée, effectivement, en fait, je voulais, dans un premier temps, essayer de pratiquer l'idée du circuit court dans la musique. Donc, donc mon idée, c'est d'aller voilà, effectivement jouer dans une salle plus traditionnelle et puis d'organiser une petite tournée en milieu rural, voilà, dans des lieux insolites. Enfin, j'ai déjà pratiqué un peu dans des moulins, enfin, voilà, dans des églises de campagne. Et en fait, l'idée de ça aussi, c'est de sortir de sa bulle aussi, parce que je trouve que c'est une position aussi politique. On vit une ère, on le dit tous, que on est en train de se renfermer de plus en plus derrière ces écrans, dans ces bulles, avec les algorithmes qui nous ciblent parfaitement et qui nous montrent ce dont on a envie de voir. Et voilà, moi j'ai envie de sortir de cette bulle, alors... Je fais des concerts en milieu rural. Je fais plein d'ateliers aussi avec des élèves en milieu rural qui n'ont pas forcément accès à la culture. Et je vais chez eux et on compose des chansons. Et je vous dis, tout le monde j'adore la chanson, c'est la forme la plus démocratique. Et en fait, à Alençon, le 10 mai, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui sont vers là, mais il y a des élèves de la maison familiale rurale à Vimoutier qui vont venir faire ma première partie avec des chansons qu'ils ont composées sur leur vie en milieu rural en France. Donc oui, j'essaie de... Et effectivement, je vais me déplacer en calèche. Alors, je ne sais pas si Émilie se déplace exclusivement comme ça, mais vraiment, l'organisation est complexe. Mais on va la faire une première fois et on verra.
Un commentaire de votre part, Moodoïd, à tout ce que vous venez d'entendre?
Non, ça me rappelle, ouais, ma première tournée de ma vie de Moodoïd, c'était une tournée à vélo dans la campagne anglaise, en milieu rural. Ouais. On jouait que sur des places de village et des pubs.
Et avec les instruments au dos et
avec
tout.
Avec des petites caravanes sur les vélos, ouais, avec tous les amplis, la basse.
Et est-ce que c'est une expérience que tu répéteras ou
Maintenant, il prend l'avion,
c'est vous savez. C'était 10 ans, mais je ne l'ai pas refait encore. Ouais. Mais peut-être bien, en tout cas, ça m'avait beaucoup plu à l'époque.
Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Kyrie et Chris Manson.
Merci Laurent.
L'album, c'est Floralia, avec des concerts le 14 avril, la release party à l'église Saint-Eustache à Paris. Le 10 mai donc à Alençon, le 2 juillet vous serez à Jazz à Vienne. Moodoïd, merci à vous.
Merci beaucoup.
Et merci à vos musiciens ce soir. Le EP, c'est Prima Donna volume 2. On attend bien sûr le volume 3, le volume 4. Ça finira par faire un album, on le sait. Je signale que deux titres en live sont disponibles sur le site de l'émission. Memories, qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis Only One Man. Prochain concert, ce sera le 14 avril au Grand Contrôle à Paris. Le 4 juin, We Love Green. Un grand merci aussi à Michael Turbo de Sony. On reviendra sur le dossier des intelligences artificielles dans la première semaine de mai. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Changement de registre avec Thomas Bangalter et Lucie Antounès qui seront les invités de Côté Club. Côté Club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique. Le duo Adèle Caglar, Benjamin Troncin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, Louise Tempéro à la programmation. Préparation générique, c'est ChatGPT. Et merci à Jean-Philippe Mort pour sa collaboration. Et enfin, en playlist, Valentine Chedebois. Côté Club, c'est fini. Que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
Côté. C'était super, j'espère que vous avez trouvé aussi ça super.
Oui.
Club.
Comme ça, on a tous trouvé ça super.
Bye.